Pas souvent à la télé, on vous entend pas souvent à la radio, monsieur Léo Ferré. Vous vous faites voir très peu.
Oh, je me rends pas compte, mais vous savez, vous parlez de la télé, on me voit pas souvent à la télé, mais puis quand on me voit, je ne le sais pas. Et voilà, vous comprenez, nous sommes exploités, nous avons affaire à des proxénètes. Et si on est exploité, c'est que c'est notre faute à nous, parce qu'on se laisse faire, vous voyez. On a confiance, on signe des choses comme ça pour faire plaisir aux gens, et la plupart du temps, on va faire des émissions, on est payé avec des lance-pierres. On le fait parce qu'on nous dit, si vous ne faites pas ça, ça vous fait... Vous savez ce mot abominable qui s'appelle promotion, dont on a tiré le verbe promotionner, ce qui me conduit, moi, à continuer à dire promouvoir, ce qui est... Fatalement, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire promouvoir.
Ah oui, moi aussi, je dis promouvoir.
Ah, mais
on n'est pas dans le coup, alors
oui. Ah non, on n'est pas dans le coup.
Ah, bon, d'accord.
Mais ça ne fait rien, mais on apprend. Car, on apprend aux autres. Et alors, on se laisse faire comme ça. Je râle parce que je suis... un râleur, enfin, fonctionnellement un râleur. Hein. Je pense que si dans ce monde qui est à genoux, si on râle pas, c'est foutu. Hein. Même si on râle, c'est foutu quand même, puisque je vous dis à vous, Charlie, Olivier, Pascal, Gilles, Michel, Guy Patrick, c'est la merde, vous savez. Hein. Mais il y a tout de même un espoir du côté de quoi ? De l'amour ou du terrorisme.
Et vous vous mettez du côté des terroristes?
Non, je veux dire que le problème des terroristes est un problème qui me dépasse, moi, parce que je ne peux pas supporter la violence par les armes, surtout dans le dos, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas des terroristes. Je pense que le seul tort des terroristes, c'est dans le manque d'objectivité qu'ils ont pour le choix de leurs victimes. Je sais que vous me couperez, mais je vous le dis quand même.
Non, je sais pas.
Si on ne m'avait pas demandé d'aller chez les étudiants, je n'aurais pas pu chanter à Nice, qui est un pays, fait une ville fasciste, vous êtes au courant, oui. Ben, parler à un Niçois. J'arrivais ce matin, voilà, à l'aéroport. Et alors, des gens très gentils, des Niçois, comment parler Niçois? Je comprends Niçois, mon père était Niçois, mais je ne le parle pas. Hein. Je parle un peu monégasque, parce que je suis monégasque. Et puis, je parlais de Nice comme ça, enfin, je râlais un peu, quoi. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont parlé, ils m'ont dit que c'est la fin de tout là-bas, quoi. Ouais. Il faut vraiment que ça finisse, vous savez ça. Maintenant, je n'ai plus de temps trop devant moi pour ne pas dire à tout le monde qu'il faut faire attention et sortir les poings, au moins les yeux, bien en face des trous.
Justement, vous dites que ceux qui vous ont demandé de venir, comment vous organisez vos tours de chant et comment vous tombez dans une ville comme Nice?
Ce garçon de Lyon avec qui je travaille, qui s'appelle Michel Alguet, qui a beaucoup de talent, et il m'a dit, tu veux faire Nice? J'ai dit oui, parce que Nice, c'est près de Monaco, comme il m'est difficile de passer dans mon pays. Vous avez remarqué qu'ici, je ne passe jamais.
C'est passé à l'Opéra de Monte-Carlo, quand
oui,
même.
Oui, mais alors là, c'était un cadeau, t'es royal, puis c'est fini. Les cadeaux, ça se retrouve pas. Regardez les affiches des gens qui passent ici. Hein.
Bah alors, je n'ai que des monégasques autour de moi, ils vous adorent. Alors ça prouve que vous avez un public à Monaco.
Oui, mais c'est pas le pouvoir. Non, moi, j'ai un copain ici, qui est un type très gentil, c'est le maire. Monaco. Quand j'ai donné ce spectacle l'hiver à Monte-Carlo, il est venu en coulisses. Deux fois, il m'avait jamais vu faire ça. Il m'a dit, oh, il faudrait faire ça dehors quand même, ici quand même. J'ai dit, vous savez, moi je suis d'accord. Hein. J'étais très ému parce que lui a dit, il est rare qu'on me demande des choses comme ça. Hein. Et alors, surtout avec des moyens, quand je dis les moyens, pour moi c'est l'orchestre, vous savez. Il est venu me voir et puis, je donnais un concert. On a joué 6 minutes et il y avait la pluie et vous savez, avec les instruments, avec les violons, les instruments à archer, puis les bois, c'est pas possible. Et ils sont partis et il y a quelqu'un qui a approché Metzer qui a dit le jour où il est allé voir Ferré, il aurait mieux fait de se casser la jambe.
Je voudrais, puisque vous nous avez quand même montré déjà votre caractère, je voudrais qu'on en parle un peu de ce caractère de Léo Ferré, parce que finalement, votre carrière a été émaillée de grands coups, je mets entre guillemets, de gueule, non?
Oui, il y a une fausse légende que je traîne, et on dit que je suis un type impossible, mal poli. Moi, je suis bien élevé, vous savez, madame. Je suis bien élevé, hein, mon père m'a élevé. Cela dit, quand je parle, je dis les choses comme ça, quoi, parce que... Puis ça dépend des questions aussi, vous savez, on me demande des trucs bizarres, je réponds d'une façon bizarre, hein, vous voyez? Bon, cela dit, je suis même trop gentil. Je répète que je suis bien élevé. Et je crois que, vous savez, c'est pas mal. Hein. Ce qu'on voit depuis 68, ce sont les mal élevés imbéciles. Vous savez, ils viennent J'en parle, moi, en connaissance de cause, puisque souvent, ils viennent me dire des choses. Ça aurait été qu'un digne. Que j'ai mal vieilli. Alors, on peut tout me dire, mais que pas que je vieillis mal. Hein?
Pourquoi vous pensez que vous vieillissez? Moi, je trouve que... Enfin, moi,
non, parce moi, que j'ai moi, l'impression... J'ai bon âge, hein, bon, écoutez, moi, je suis né ici, enfin, à 50 mètres d'ici, le 24 août 1916. Que je vais avoir 63 ans le 24 août 1979. Cela dit, le jour où je serai un vieux con, ça m'emmerde parce que je ne saurais pas. Ouais. Mais cela dit, ben, c'est fini, quoi.
Qu'est-ce que mai 68 a représenté pour vous, là?
Comment dirais-je? Ça a été formidable. 68, vous savez que c'est extraordinaire, 68. Il en reste des choses. Il en reste l'idée même. Il n'en reste pas les hommes, parce qu'ils sont tous classés maintenant. Heureux. Heureusement pour eux, et puis malheureusement pour l'idée qu'on peut s'en faire. Parce que les gens sont possédés par le quotidien, par les enfants qu'ils ont avec une femme qu'ils aiment, et puis par le quotidien de la vie, le fric qu'il faut gagner pour aller au bout et pour aller jusqu'à ce mois de vacances qu'il faut absolument avoir, hein, c'est pas au bout de l'année, n'est-ce pas? Et alors, bon, 68, pour moi, ça ne m'a rien apporté. Je pense que j'ai apporté aux gens d'après 68. Quoi. Parce que voyez, le public des jeunes, ils ne venaient pas avant la chanson. Hein. Avant, les gens, ils vieillissaient en même temps que moi. Maintenant, c'est plus. Ils restent toujours le même âge.
Justement, après 68, il me semble que vous avez été inspiré par ce mouvement dans vos textes, dans vos chansons. Et il me semble que depuis les derniers disques, vous avez peut-être un peu quitté cette inspiration qu'on appelle généralement engagée, et que vos textes sont beaucoup plus timorés. Est-ce que vous en êtes... C'est volontaire?
Fais attention à ce que tu dis, toi.
Timoré, ou tu veux dire plus poétique et moins fort, enfin moins agressif,
oui,
peut-être.
Oui, je le trouve beaucoup...
Tu veux dire qu'il
moins est... engagé, dans la mesure où ça signifie quelque chose.
Non, l'engagement avec ce mot. Tout l'engagement va de soi. Moi, je n'ai pas à ça. D'ailleurs, je lui ai dit, vous avez tort de parler d'engagement. L'écrivain doit être engagé. Engagement, c'est une signature, ou pas d'une carte, ou pas d'un papier. Le mec qui a l'occasion de dire des choses parce qu'il est plus haut que les autres sur une scène parce que il a une marque qui fait qu'on va le voir et il a un micro et s'il raconte des conneries il faudrait que ça n'aille, vous comprenez? Bon, alors si vous racontez pas de conneries, vous êtes forcément engagé. Pourquoi? Dans votre époque, dans la société, moi je vis seul, j'ai le privilège de pouvoir vivre à la campagne quand je veux, mais quand je vais en ville, je m'arrête au feu rouge, vous voyez, hein? Alors je suis engagé au feu rouge.
Oui, mais il y a quand même des gens qui ont souffert de leur engagement, enfin ça signifie quelque chose, des gens qui...
Oui, alors c'est une connerie, ça, il ne faut pas s'engager jamais. Moi je rougirais si j'avais à dire que je me suis levé un matin en disant « Ah, aujourd'hui je vais écrire un texte engagé, histoire de raconter des choses », ou vous savez ce qu'on appelle un message, hein? On me dit, quand on me dit que je fais des messages, je dis non monsieur, les messages vous sont emportés par le facteur ou par le papier bleu d'un huissier ou par le papier bleu d'un collecteur d'impôts, vous savez.
Ouais. C'est-à-dire que tu trouvais peut-être que dans les premiers, enfin pas les premiers disques, mais les disques du milieu de enfin d'il y a quelques années, c'était plus engagé que maintenant. Maintenant,
oui,
on revient à la poésie.
Il y a une période beaucoup plus, bon, appelons-la anarchiste, appelons-la comme on veut.
Anarchiste. Enfin,
est-ce
que vous êtes anarchiste
plus clair,
Oui, mais je ne le dis pas, parce que les gens ne savent pas ce que c'est, vous savez.
Qu'est-ce que c'est la définition?
Ah, voilà, ça va être formidable, je vous remercie. J'avais 14 ans, j'avais chez moi le petit Larousse rose. De petit Larousse, hein, chez moi, parce que j'étais à l'école, j'avais un petit Larousse. Hein. Alors un jour, il faut croire que ça me travaillait déjà, j'ai vu anarchie, négation de toute autorité, d'où qu'elle vient. Le petit Larousse rose de 1930. Maintenant, allez voir sur le Larousse, anarchie. C'est fini ça. Il n'y a plus négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne. Il y a bordel dans la rue, il y a anarchisme. L'anarchisme, c'est pas l'anarchie. L'anarchie, c'est l'extrême solitude. C'est la négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne. Si je vous demande à chacun d'entre vous, si vous aimez l'autorité d'où qu'elle vienne, alors je m'en vais tout de suite. Et puis ça n'est pas possible que vous me disiez oui, n'est-ce pas? C'est le sentiment aussi noble que l'amour. C'est pour ça que j'ai un ministre avec un grand art anarchique, avec un grand art comme amour, non? Voilà, c'est ça. Alors je parle pas de ça parce que l'anarchisme, c'est une sorte de formulation politique, même pas... l'anarchie, c'est peut-être aussi, là, il faut le dire, ça, oui, l'anarchie, c'est la formulation politique du désespoir. Mais l'anarchisme, c'est comme communisme, c'est comme fascisme, merde, quoi. Hein, bon. Vous comprenez, hein?
Oui, c'est
pour ça que je dis que la gauche, c'est une salle d'attente, d'être à droite.
Non, non,
Moi, j'ai jamais vu. L'anarchie, pour moi, c'est l'extrême solitude. Pour moi, l'anarchie, c'est la feuille blanche. Et c'est vraiment terrible, la feuille blanche. Bon, voilà.
Il y a aussi l'amour, non, qui vous retient en Italie.
Et oui, l'amour, oui. Enfin, ça, c'est autre chose. Je crois que nous n'avons pas encore parlé de l'amour. Ça, c'est miraculeux. Hein. C'est la seule chose qui me tienne debout, hein, je crois.
Est-ce que c'est une valeur révolutionnaire encore pour vous, l'amour?
Il y a l'insurrection permanente aussi, hein, c'est sûr. Hein.
Non, mais est-ce que l'amour est une valeur révolutionnaire, d'après vous?
Mais bien
sûr. Elle est toujours dans cette société.
Il faut, mais elle n'est pas, non.
Elle ne l'est plus.
Non, parce qu'elle est le mariage. Hein. Le mariage, c'est encore le code civil. C'est le code civil, c'est Napoléon. Napoléon, c'est le droit romain. Ah, alors, il faut changer tout ça, il faut casser.
Non, parce que vos derniers textes me semblent assez inspirés de l'amour. Est-ce que, comme vous m'avez dit, que si on lisait entre les lignes, on arrivait à trouver un message assez insurrectionnel? Est-ce que vous pensez que, justement, ces messages amoureux apportent, je sais pas, des ferments d'insurrection
ou... Je pense, oui, parce que je pense que la seule chose qui soit possible et qui est vraiment facile, si vous savez ce que c'est facile, c'est trop facile pour pouvoir le faire comprendre aux gens, que le respect de l'autre, ou l'amour de l'autre, quand ça se trouve, bien, mais sinon, le respect de l'autre. Il y a un type qui passe à côté de toi dans la rue, bon, il te regarde, il te plaît ou bien tu dis bonjour, bonjour monsieur Pierre, ou alors il te dit pas bonjour, mais il te respecte et tu le respectes à ce moment-là. Il n'y a plus besoin de flics, plus besoin de serrure, il n'y a plus besoin de rien du tout. Seulement je parle pour quand, hein. Pendant 10 000 ans, mais en 10 000 ans la planète aura sauté. Quoi.
Un amour généralisé alors.
Et oui, et c'est facile, je vous jure que c'est facile, il y a la petite porte entrouverte, il faut pousser, hein. Et vous savez bien que c'est facile.
Alors la révolte contre l'amour, c'est quoi? C'est le non-mariage? Vous êtes pourtant marié, vous avez des enfants?
Mais... parce que moi, je suis pas plus fort que les autres. Hein.
Ah, bah alors vous dites, il faut casser tout ça, il faut casser tout ça, ouais, mais vous ne cassez pas.
Et parce que j'ai des enfants, je les protège par le mariage.
Eh bah alors.
Oui, c'est tout.
Ah, bah alors je pense qu'on va tout...
Il faut bien que je vive avec... Quand je vous ai dit que je m'arrêtais au feu rouge.
Oui, voilà.
Et alors, voilà.
Bah, donc, il n'y a pas d'anarchie possible, il n'y a pas de liberté possible, de toute façon.
Il y a la liberté possible, bien sûr. La liberté est derrière la porte, là. Il suffit de pousser un peu là, avec le soleil. Voilà, si vous saviez, la liberté, c'est facile. Seulement, il y a toujours des gens qui sont des vraies saloperies. Vous voyez, ils naissent comme ça. Il paraît que c'est biologique. Bon, moi, ça m'étonne, c'est comme ça. Alors, il paraît. Et parce que sinon, ça ne peut pas s'expliquer. Hein. C'est pour ça que c'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui. Vous avez remarqué que le seul problème, c'est l'autre qui te grignote, non, hein, qui te rentre. Que à partir de ton père, ta mère, et puis après, et encore là, c'est affectueux, c'est bon, c'est pas mal, quoi. Quoique des fois, il y a des trucs bizarres, hein. Et puis après, c'est toujours l'autre qui vient, qui te mange, si tu veux pas. Si tu manges pas, tu es mangé. Alors, et quand t'as pas faim, merde.
Léo, on n'a pas encore.
La musique, vous avez une période qu'on pourrait appeler symphonique, enfin, c'est donc cette période pendant laquelle vous. Jouiez accompagné, vous chantiez accompagné d'un orchestre symphonique. Est-ce que vous la regrettez? Est-ce que c'était une expérience vraiment fructueuse?
Mais non, mais c'est uniquement... c'est pas passé, j'essaye toujours, mais on me laisse pas m'insérer. Vous savez, je suis le seul, enfin, je suis chef d'orchestre, entre guillemets, puisque je n'ai pas le droit de toucher la musique. Bon, vous savez, les musiciens sont des gens comme ça. Hein. J'ai fait cette tournée, puis il y a 4 ou 5 ans, je ne chante plus comme ça, avec des bandes, parce qu'avec des bandes dans la valise, c'est évidemment plus facile. Et puis... ça permet de faire des prix de place un peu plus acceptables, n'est-ce pas?
Là, vous avez fait deux albums, je crois, avec les chœurs de la Scala de Milan.
Oui.
Deux albums.
Oui, je produis, moi, les bandes, maintenant, c'est la
mais,
bande.
Mais la musique classique vous inspire énormément, vous êtes un passionné de musique classique.
Et oui, bien sûr. J'étais passionné, j'avais 4 ans, j'étais sur les remparts, là, vous savez.
Et vous êtes un musicien classique au départ, excusez-moi
de vous... Oui, vous savez, moi je crois qu'on a tort de dire ça, je suis un musicien, quoi. Ouais, classique.
Oui, c'est vrai, musicien, c'est vrai, effectivement.
Vous avez dit que la pop musique, maintenant, c'était la musique de toujours sur des accords de Gabriel Fauré. Vous vous souvenez?
Je sais pas, en tout cas, même si je ne l'ai pas dit, c'est joliment dit, mais pas toujours quand même, hein. Non, la pop musique, vous savez, ça a été une découverte pour moi quand j'ai vu des gens vraiment de talent qui le faisaient. Il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai cherché longtemps à rencontrer ces gens extraordinaires qui ont un talent immense.
Et
que j'écoutais, moi, avec un plaisir fantastique, Pink Floyd. Ah. Bon. Et je vous racontais une petite histoire. Si je ne suis pas long, ça vaut le coup parce que le 20 juillet, ça fera 5 ans, et ma petite fille, Marie, est né. Alors, comme l'accouchement n'avait pas été très facile, ma femme ne pouvait pas prendre la voiture 12 jours après. 12 jours après, il fallait que j'amène cette petite, parce qu'il fallait qu'elle était très bien, il fallait qu'elle quitte la clinique. Alors, j'ai pris cette petite 12 jours en voiture, un soir à 11h. Je suis parti, j'ai passé la frontière. Et puis, voilà. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, vous la touchez pas, vous êtes tranquille, elle a mangé. Si elle peut me donner un peu d'eau sucrée. Alors, vous savez, un homme est très mal habile. Et puis un homme ne fait rien à la maison pour aider la femme. Jamais, ça se doit dire. Ça, c'est vrai. Ça, hein. Nous sommes très égoïstes. Hein. Nous attendons qu'un enfant ait 3-4 ans pour pouvoir lui parler. Mais avant, on ne fait rien. Hein. Bon. Et alors là, il a fallu que je fasse. Alors, tout d'un coup. Vous voyez bien que je ne suis pas une canaille. Quand on disait alors, elle a pleuré. Alors j'ai donné le biberon comme ça avec l'eau sucrée. Et puis elle continuait à gueuler. Hein. Alors je me suis arrêté, puis je. Sur un parking là, sur l'autoroute avant Gênes. Et puis j'étais absolument, je ne savais plus quoi faire. Et on, parce qu'on m'avait dit, fais attention, une fille de 12 jours, c'est important. Quoi. Alors, non. Et je me suis mis à pleurer moi aussi. Et tout d'un coup, ça a été extraordinaire. J'avais la cassette du dernier disque formidable de Pink Floyd, c'est de La Nuit dans le
Dark Side.
C'est ça, Dark Side. J'ai mis ça, mais fort, jusqu'à Castellina. Et j'ai plus réveillé.
Déjà musicienne, 2 jours, c'est formidable.
En ce qui concerne la musique classique, bon, vous critiquez ouvertement la musique contemporaine. Mais si ceci étant dit, quel est l'avenir de la musique classique à ce moment-là?
Mais c'est pas, justement, parce que vous vous trompez, parce que vous dites musique classique, musique contemporaine. Vous savez, Beethoven, c'était un musicien contemporain.
C'est de la musique moderne.
Mozart aussi. Hein. Et si vous écoutez bien Beethoven, c'est la grande fugue, c'est pas mal. Hein. Et alors... Et puis vous dites musique contemporaine. Musique contemporaine, pourquoi? Pourquoi ils se disent pas musicien? Pourquoi ils se disent musique contemporaine?
Musique sérielle.
Sérielle, oui. Schoenberg, c'était un type qui pouvait écrire de la musique, mais il n'avait pas le truc pour parler au-delà de Wagner. Il était un guru leader, il a essayé, et je le comprends, quoi. Il a inventé ce langage. Que ça veut dire, inventer un langage? Quand vous me parlez, comment vous faites? Vous ne me faites pas... Alors, pourquoi on ne fait pas comme ça? Hein? Et quand on fait comme ça en musique, alors ils disent, oh, c'est génial. N'est-ce pas? Et ces gens-là sont aidés. Je Boulez à Paris, il touche 544 millions d'anciens francs par an pour entretenir un orchestre de 29 musiciens. Hein? Vous entendez bien, hein? 584 ou 484, quelque chose. En tout cas, c'est comme ça. Pourquoi? Et c'est extraordinaire. Ce type qui a dit, dans la classe de composition de Millau au conservatoire, il faut jeter l'œuvre de Gabriel Fauré à la Seine. À la Seine, dans le fleuve, hein? Hein? C'est extraordinaire. Vous ne trouvez pas? Vous avez écouté, Boulez? Moi, j'ai accepté cette partition. Moi, je parle des choses, vous savez, en sachant bien. Hein? J'ai essayé. Il a mis en musique le marteau 100 mètres du poète René Char. Alors, je connais bien, j'ai bien le livre de Char, mais j'ai essayé d'écouter les paroles pour pouvoir les écrire et pouvoir mettre de la musique dessus, moi, pour faire une expérience. Vous ne savez pas que je ne suis pas arrivé à écrire les paroles? Je ne suis pas arrivé à écrire les paroles. Vous savez pourquoi? Parce que ça faisait... Pas besoin d'orchestre. Moi, je voulais faire la musique contemporaine tout de suite. Hein? Et cela dit, il y a beaucoup de musiciens. Vous savez, si vous écoutez bien la chanson, ils s'appellent les musiciens. Hein?
Est-ce que c'est vrai?
Ben oui, mais à propos de la chanson. Parce que
c'était à propos de la chanson?
Ah bon, parce que je chantais un petit peu. Je commençais à chanter, à écrire des chansons. Alors, il y avait un type qui s'appelait Francis Claude, qui avait une émission ici. Alors il me faisait chanter une fois par semaine, je crois, dans cette émission. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors après, comme il fallait que je décide de faire de la musique uniquement, et grâce au fait que parce que j'avais de la voix, je veux dire ma voix. Si j'avais pas eu de voix, ben, j'aurais pas écrit de paroles, jamais. Et puis j'aurais pas fait de musique non plus, je crois, parce que personne... Vous savez, si j'arrive à faire des trucs aujourd'hui, si on... On me rit pas au nez quand je prends 80 musiciens. Je veux dire, au nez aussi, ils me rient pas à leur portefeuille, les gens des producteurs de disques, c'est parce qu'ils savent qu'ils vendent du disque, c'est pas parce que c'est moi. C'est-à-dire qu'ils sentent, ils vendent la matière et ma gueule sur le truc, vous comprenez ? Ma gueule, ils s'en foutent, mais ici, c'est à cette gueule, c'est le machin, le alors ça se vend, ça, c'est bien, alors ils peuvent rien dire. Mais pourquoi ? Mais moi, j'ai plus de 60 ans, vous comprenez ? Et alors, j'ai commencé comme ça, et puis, comme il fallait que je ne fasse que ça, je suis rentré ici, puis alors j'ai fait un peu le speaker, j'étais mauvais d'ailleurs. Et puis, j'accompagnais des fois des gens au piano, et puis c'était très sympathique. Je me suis fait de très bons copains ici, parmi les techniciens. On était une bande, et c'était vraiment. Et je gagnais 3 francs par jour, 300 francs anciens. Hein. Je vous le dis parce que c'est vrai que pour moi c'était suffisant.
Et alors après, vous avez quitté Radio Monte Carlo pour monter à Paris ou autre chose avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, j'ai quitté un groupe pour aller à Paris, quoi. Et pour me dire, je vais chanter là-bas. Et puis.
Et comment vous avez été accueilli ? Alors vous étiez auteur, compositeur déjà ou vous chantez des chansons des autres ?
Ah non, j'ai jamais chanté des chansons des autres.
Toujours les vôtres.
Alors un type que j'ai connu qui vend des serviettes maintenant. C'est un type qui avait du talent, enfin, qui se démerdait bien. Et il avait eu un contrat au Bœuf sur le Toit. Qui était mourant, mais enfin, c'était le bœuf sur le toit. Et un soir, c'est le cabaret, ça forme quelqu'un. J'ai fait beaucoup de cabaret, c'est difficile, parce que les gens qui sont là, vous voyez les gens comme ça, comme je vous vois, à vous chanter. Si vous êtes ma femme, si vous êtes mon ami, tout ça, alors je vous chante volontiers, mais si vous êtes quelqu'un qui est comme ça, qui paye, qui boit le champagne. Et cette femme, elle était en face de moi, avec 3 mecs, et puis elle parlait, puis elle ne me regardait pas, elle buvait le champagne. Alors je me suis levé, je l'ai prise par la main, je lui ai dit, maintenant tu te tires. Et j'ai sorti.
Vous étiez déjà d'un caractère difficile, mais vous avez raison.
Non, c'est parce que moi j'aime les gens bien élevés, et surtout les femmes bien élevées, ce qui est rare.
Et le succès est venu tout. Comment ce qui est rare ? Les femmes bien élevées, ce qui est rare ?
Ah oui,
je n'avais pas relevé, là, moi je partais comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis toute seule, mais attention, je vais me défendre.
Je n'ai pas dit à vous.
Oui, je vais défendre les femmes.
Ah non, alors vous êtes féministe, alors. Vous savez qu'elles n'ont pas besoin d'être féministes, les femmes.
Pourquoi ?
Parce qu'elles n'ont pas besoin de ça, hein. Ils vont sous l'air du matériel. L'autre jour, à la maison, il y a eu trois types pour faire des boulots. Ça, il y avait un plombier, un truc comme ça. Genre sympa, du grand. Alors j'ai dit, t'es marié, toi ? Il me dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il commande à la maison ? Il me fait, eh. Alors, deuxième, il me fait, t'es marié, qu'est-ce qu'il commande à la maison ? Eh. Et le troisième, une somme, il m'a dit. Voilà. Moi, je suis pour le féminisme, pour le travail des femmes. Voilà.
Comment le travail ?
Je veux dire, contre le fait qu'on exploite les femmes d'une façon abominable dans le travail. Hein ?
Ah là, je suis d'accord avec vous. Ah,
absolument.
Je suis d'accord avec vous.
Mais pour le reste.
L'égalité dans le travail.
Mais l'histoire des féministes contre les hommes, hein, c'est où c'est les mal baisés, la plupart du temps. Hein.
Moi, je ne suis pas contre les hommes. Hein.
Non, d'accord, mais je ne vous ai pas dit que vous étiez mal baisés.
Non,
baisés,
non.
Hein,
bon.
Et alors j'ai dit un jour à une femme qui m'embêtait comme ça, qui était intelligente comme ça, qui était venue me voir. Je faisais des reportages dans le journal, ce journal de gauche qui était bien sa droite, comment s'appelle-t-il ? Nouvel Observateur, vous savez.
Oui.
Et qui était une fille qui s'appelait Katia, qui faisait des trucs de politique étrangère habituellement. Alors elle dit, viens cette fille et tout ça. Alors j'ai bien dit oui. Moi, elle avait le magnétophone toute la journée, elle m'a suivi. Moi j'étais très gentil. Et puis après elle a dit de grosses conneries. Et puis. Seulement, alors je lui avais dit, ce qu'on n'a pas répété d'ailleurs, à la fin, elle s'est rendue, quoi. J'ai compris qu'elle était contre les mecs, alors je lui ai dit, écoutez, madame, je vais vous dire une chose, et puis après, vous rentrez chez vous. Misogyne, c'est aussi difficile à écrire que gynécologue.
Dans les débuts, peut-être, on pourrait parler des chansons des débuts. Olivier, qu'est-ce que tu veux dire tout de suite ?
Est-ce que vos premières chansons ont tout de suite marché ? Ou...
Le succès est venu tout de suite ou pas ?
Non, pas du tout.
Non.
Le succès, ça vient de la force du temps. Hein.
Mais c'était plus facile ou c'était plus difficile qu'aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que la diffusion de la radio, de la télé...
Il n'y avait pas ce sorte de marche. Il n'y avait pas ce qu'on appelle cette grande saloperie qui s'appelle le hit-parade. Hein. Cette grande combine abominable. Vous êtes au courant. Hein. Vous savez que tout est vendu, acheté, tout ça. Hein. Bon. Par certains producteurs privés. Mais enfin, remarquez que moi, ça ne me gêne pas dans la mesure où je ne considère pas ça comme des chansons. Il faut bien vendre du dentifrice, bon ou mauvais, des bonbons, des machins de pharmacie. Hein ? Bon, que oui, la publicité, il paraît que la publicité s'apporte. Bon, c'est gênant. Ce qui est embêtant dans ces histoires de hit parade, c'est que toutes ces choses invalides qu'on propose aux gens, sont proposés par des gens qui ont décidé de dire que les gens sont bêtes et sont pas habilités pour écouter les choses, les belles choses. C'est pas vrai, c'est faux. Ce sont des gens qui ne connaissent rien et qui ne savent faire que ça et qui ont décidé de faire des choses comme ça, dites commerciales, alors qu'ils se trompent aussi. Non, en ce qui me concerne, c'était très difficile. Maintenant, vous dire que c'était peut-être que le fait qu'il y avait le cabaret, ça n'existe plus comme ça à Paris maintenant. C'est plus comme ça. Et puis, on n'avait pas les producteurs de disques venaient au bout du compte en vous proposant des choses. Ils se disaient tiens, c'est peut-être intéressant, mais sans tellement d'arrière-pensée de vendre à tout prix 400 000, 800 000, 3 millions, 20 millions de 45 tours. Vous savez que pour les chiffres, on exagère aussi.
Oui, parce que j'ai pas l'impression qu'on vende.
Mais non, mais il y a des gens qui vendent beaucoup de choses. Bon, il y a cette espèce de truc, comment ça s'appelle ? Oh là là, ça alors, c'est dans la maison, une des maisons dans lesquelles j'ai des disques d'ailleurs, maison CBS, je l'ai appris par hasard. J'écoutais sur Radio Monte Carlo aussi, et puis partout, j'appelais ça Boy, il paraît que c'est Born, vous savez,
Born to be alive.
Le disco de l'as,
Comment vous appelez ça ?
Disco glace, non ? Et alors, ce que je comprends pas, c'est que plus on entend maintenant, il y a tellement de moyens qui copient ce qu'ils ont entendu à la radio, et comment ça se fait que les gens vont quand même acheter des disques ? Ça, c'est extraordinaire. Ça, je comprends pas. Puisqu'ils l'ont à portée d'oreille comme ils veulent, et à portée de leur cassette, n'est-ce pas ? Ils vont acheter le disque, qui est cher. Le disque en France, la France est chère. Vous savez que le disque, il y a 33% de TVA. Ce monstrueux État prend 33% à qui les prend aux gens qui achètent. Vous comprenez ? Et que j'ai eu l'occasion de dire que quand on en veut aux acteurs, des gens comme moi, on a fait des ennuis, des gens comme Aznavour, à Ali et à votre François qui avait eu beaucoup de problèmes fiscaux, n'est-ce pas ? Par les agents de la Gestapo fiscale, vous connaissez, ce qui nous reste d'Allemands, ben, ils nous ont laissé ça, en tout cas. Bon, eh bien, je ne comprends pas parce que je ne pense pas que des gens comme nous, nous sommes négligents. Je le suis moins, je fais très attention, mais nous sommes négligents des histoires que moi je connais particulièrement. Le cas d'Aznavour, il n'a pas cherché, il s'est pas levé un matin en disant je vais prendre mon compte, je vais comme ça déclarer si, que ça c'est très difficile, on ne peut pas faire ça, n'est-ce pas ? Seulement, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi j'ai eu l'occasion d'avoir des problèmes avec une maison de disques qui, entre le 1er janvier 69 et le fin juin 74, en 5 ans et demi, avait vendu de moi 1 million de 33 tours, vous savez, en 5 ans et demi. Alors j'avais fait le compte, moi j'avais touché 125 millions anciens. Ça veut dire que sur chaque disque, je touchais 1,25 franc. Hein. L'État, qu'est-ce qu'il touchait ? C'est-à-dire que en 5 ans et demi, j'ai fait gagner, moi, à l'État, par mon canal, l'argent n'ayant pas d'odeur, c'est comme si moi j'avais payé des impôts, 1 milliard 200 millions. Je suis celui qui vend moins de disques, je vends beaucoup moins de disques que les autres, vous comprenez. Et alors, on ne dit pas ça, vous comprenez. 1 milliard, qu'est-ce qui paye 1 milliard 200 millions, qui a rapporté à l'État 1 milliard 200 millions en 5 ans et demi. Et ce sont des gens comme nous, sur lesquels on tape. Pourquoi ? Parce qu'on est libre, soit parce qu'on chante, et ça emmerde les gens. Pas les gens qui vous écoutent, les gens de la potence, vous comprenez ? Ces agents fiscaux qui sont ratés, c'est abominable.
Je voulais vous demander, monsieur Ferré, comment êtes-vous arrivé à vous faire connaître, enfin par quel moyen vous a-t-on connu ? C'est vous-même qui vous êtes fait connaître
Le temps.
Le temps ?
Et le temps.
Avec le temps.
Des années. En 74, il y a un jeune mec sympa qui m'attendait à la sortie. Il me dit, je vous aime bien. Alors, j'étais content parce que ça fait plaisir que je lui serre la main. Il me dit, il y a une chose qui m'ennuie. J'ai dit, quoi donc, mon petit ? Il me dit, c'est que vous soyez connu. Et j'ai dit, si j'étais pas connu, vous seriez pas là. Hein.
Quels sont les gens en France que vous considérez comme des grandes vedettes et quels sont ceux qui vous impressionnent, enfin ?
Je peux pas dire ça.
Pourquoi il n'y a pas de Brassens ? Vous êtes ami avec qui dans le métier ?
Ah, ben, vous dites Brassens. Brassens, c'est un type qui fait mon métier. Il est forcément de mon côté, vous comprenez. Quand je vois Brassens, je le vois comme vous le voyez, vous. Si je le vois comme à travers moi ce que je pourrais faire, j'aurais vraisemblablement une fausse idée. Je pourrais me tromper sur Brassens. Brassens, c'est vraiment un type qui fait des choses originales à lui, quoi. Hein. Et quand je le vois, ben, c'est comme vous, il me plaît. Et cela dit, je ne passe pas ma vie à écouter chanteurs. Oui.
Oui, mais alors on a parlé des hits tout à l'heure. Il y a d'un côté le hit, puis d'un autre côté, il y a des gens qui ne sont pas au hit, comme Brassens, Ferré, Ferrat. Enfin, il y a des gens qui ne sont jamais au hit, oui. Qui vendent. Mais alors, qu'est-ce qui va remplacer les grands, finalement? Parce qu'on vous met toujours du côté des stars. Hein, il y a les chanteurs, les stars, dont vous faites partie. Et Charlie me disait tout à l'heure, qui va prendre la... Pourquoi tu veux dire quelque chose,
c'est
Michel?
C'est à ce propos-là, oui. Je voulais dire, avant, voyez, on disait Ferré, Brassens, Brel, Ferrat, et puis le reste. Maintenant, il y en a d'autres qui percent. Vous les connaissez, vous?
Oui, moi, je connais un qui est du talent, il s'appelle Lavillier.
Lavillier, oui.
Lavillier, Higelin.
Higelin,
oui. C'est heureusement, hein.
On a attendu longtemps.
Eh oui. Mais vous savez, je crois que on a tort de penser... Vous savez qu'il y a entre 15 et 25 000 peintres professionnels à Paris. Vous savez ça? Combien de peintres, hein? Combien de peintres du 19e siècle? Combien de peintres du 20e siècle? Alors, c'est triste parce que ce sont des gens qui... Et en plus, les peintres, ils ont un métier abominable à côté des nôtres. Quand on fait quelque chose qui peut être entendu, on le multiplie à l'aide de l'enregistrement et du pressage des disques. Un peintre, je parle d'un peintre de génie, hein, il a un tableau, une toile, et puis c'est fini, quoi. Hein? Vous savez, moi, j'ai vu souvent la reproduction de Brindant de Botticelli. Je vais jamais au musée. Parce que je sais pas, j'aime pas ça. Et j'habitais Florence, pas loin de Florence. Et pendant un an, je laissais souvent la voiture devant le musée des Offices. Je ne suis jamais rentré. Et un jour, je suis rentré avec des amis belges. Et il y a des choses extraordinaires. Il y a tellement de choses extraordinaires, tu vois plus rien. Alors je tournais, je passais, je vais tout d'un coup, je suis rentré le printemps de Botticelli. J'ai vu les yeux de cette femme, alors que je la connaissais par les reproductions qu'on voit partout. Et alors là, j'ai compris que. Il y avait le regard là, uniquement là, sur la toile, et non pas sur la reproduction. Quand vous pensez qu'aujourd'hui on reproduit d'une façon technique extraordinaire avec les couleurs, n'importe quoi, n'importe quel tableau, on reproduit les couleurs, mais on ne reproduit pas ce qui est derrière les yeux, parce que ce qui est derrière les yeux n'a pas de couleur, ou alors on en a trop.
Les jeunes qui m'entourent, Léo Ferré, c'est qu'est-ce que fait Léo Ferré quand il ne chante pas, parce qu'ils m'ont dit, bon, bah, il y a le chanteur et puis il y a l'homme. Alors,
ou quand il n'écrit pas.
Ou quand il n'écrit pas. Ou quand il n'est pas au piano. Les passe-temps, les loisirs, la famille, les enfants. Donc la famille, les enfants. Là. Parlez-nous un peu de vos enfants.
Ah oui, c'est formidable. Ah oui.
Ils ont quel âge maintenant?
Mathieu, 9 ans. Ma fille, Marie, 5 ans. La toute petite, 17 mois. Ils sont très beaux. Mais puis de toute façon, vous savez, quand vous les avez à vous, ils sont toujours très beaux. Hein.
Et comment ça se passe votre vie avec eux?
Super, je suis le père. Ouais. Je suis père un peu bizarre, mais je suis le père quand même. Je suis pas grand-père, j'ai pas eu d'enfant. Alors. Ça me gênerait d'avoir un fils de 40 ans et puis un enfant de 17 mois. Voilà.
Ce sont les premiers?
Ah oui, oui, jamais vous d'enfant. Et un jour, ma femme, mon mari, m'a demandé un enfant. Alors, le 12 septembre. 1962, j'ai senti Mathieu foutre comme moi.
C'est bien, j'aime ça.
À 2h.
J'aime la formule. Et comment, est-ce qu'ils sont conscients que vous êtes une star? Est-ce qu'ils sont conscients que vous êtes Léo Ferré ou pour eux c'est papa et c'est tout?
Non, mais ils sont conscients de ça aussi. Ah oui.
Oui. Ils écoutent vos disques
Non, je pense pas. Non, des fois, il y a une chanson de moi qu'on passait à Radio Monte Carlo. Il y a quelques, je sais pas, il avait 4 ans dans la voiture, alors cette chanson, il la connaissait, on me disait bêtement, alors qui est-ce qui chante à la maison? On lui disait, c'est papa, hein. Alors une fois, la voiture, on disait, cette chanson, je chantais cette chanson, il y avait la radio dans la voiture, alors je lui dis, et j'étais avec ma femme, elle conduisait, puis il était là derrière, comme ça, je lui dis, qui est-ce qui chante? Il m'a regardé, il m'a dit, personne. C'était merveilleux.
Vous êtes un père, est-ce que vous êtes un bon mari? Ou est-ce que vous avez des grands coups de colère aussi?
Non. C'est une femme admirable. Mais vous savez, très intelligente, elle n'a pas eu l'occasion, parce qu'ils étaient nombreux, d'aller longtemps à l'école. Alors, qui c'est qui est François Villon, Gustave Mahler, ça suffit, parce qu'il peut le raconter aux gens qui ne le savent pas, chez lui.
Et avec vos enfants, vous savez être patient?
Très. Oui, oui, oui. Oui, et puis c'est facile aussi.
Quel est l'avenir qui les attend, d'après vous?
Ben, je crois que c'est un peu l'avenir qui vous attend, vous autres. Et ça, je n'ai pas de fin. C'est terrible.
C'était ma question. Là.
C'est l'avenir, l'avenir abominable, abominable. C'est l'ordinateur dans ce que ça a de plus... Mais hélas, l'ordinateur qui n'est pas employé comme il faut. Pour moi, les fixes devraient être des ordinateurs. Il n'y aurait pas de problème. Les trucs, les gens qui sont... Moi, je comprends que les gens qui gagnent beaucoup d'argent doivent payer beaucoup, beaucoup d'impôts, beaucoup plus que les autres. Mais en définitive, vous savez, dans ce pays, en France, puisqu'ici, à Monaco, on ne paye pas d'impôts pour les monégasques qui travaillent ici. Vous savez que les 22% des revenus, des recettes, c'est l'impôt sur le revenu. Le reste, c'est tous les autres qui payent. Il y a 42% de TVA. Vous savez, il y a un type qui s'appelle Launer, L-A-U-N-E-R. Un jour, il a inventé deux choses, il y a 20 ans, à peu près. Il a inventé les polyvalents, dont on parlait tout à l'heure, et la TVA. Et c'était pas un type du fisc, c'est un grand financier. Et ce type vit toujours.
Bon, on va parler du dernier disque qui vient de sortir et qui s'appelle Il est 6 heures ici et midi à New York. Est-ce que vous avez une expérience des USA ou c'est par imagination?
Non, vous savez, en définitive, l'idée d'avoir mis ce titre-là, ce n'est pas de moi, c'est du directeur artistique qui s'occupe de moi dans cette maison de disques. Et je voulais appeler ce disque démo, parce que c'est peut-être pour moi ce que je considérais plus, non pas important, mais enfin de plus significatif. Et il m'a convaincu, tu sais, il est 6h ici, midi à New York, c'est vraiment le moment de le dire, parce que... Hein, il n'est même plus 6h ici, midi à New York maintenant, puisque vous partez à midi d'Orly, vous arrivez à 9h du matin à New York. Alors.
Démo d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Démo dans cet album. Hein? Et les projets d'Aléo Ferré, c'est quoi? Vous avez dit donc le Palais des Sports?
Le Palais des Sports à Paris, oui.
Alors ce spectacle, c'est pour quand?
Vraisemblablement, très vraisemblablement, à partir du 4 janvier.
Janvier, rendez-vous donc au Palais des Sports à Paris. Et puis un disque pour l'automne ou pas?
Oui, moi je peux faire des disques maintenant. Il faut que j'en fasse parce que, vous savez, moi j'ai un problème. Je pense tous les jours à la mort.
À la mort?
Oui, parce que je peux mourir. Hein. Bon. Et alors, je veux laisser à mes enfants tout ce que j'ai encore dans la tête. Et comme j'en ai pas mal, alors je fais les disques. Je peux aller faire un disque vite, quoi.
C'est merveilleux. Enfin, j'espère qu'on se reverra très très souvent. Avec les enfants, peut-être la prochaine fois, Léo Ferré. J'aimerais bien.
Oui,
j'aimerais qu'ils viennent avec vous.
Votre Marie, elle a du vocabulaire.
Ça. Oui.
Oui. Extraordinaire.
Bah, écoute, on a besoin d'avoir des enfants autour
autre
de nous.
Bonjour, mais je vous raconte un truc. Ah, ça, c'est extraordinaire. J'ai chanté à Lyon, à Villeurbanne. Et il paraît que. Pendant que je chantais dans la rue, le trottoir, face à la porte, il y avait un couple en jean qui s'était juste dégrafé le temps la possibilité de s'unir, quoi. Hein. Et il paraît que Mathieu et Marie regardaient ça. Et alors Marie, après on m'a dit ça, et j'ai dit à Marie, mais qu'est-ce qu'il faisait? Et il me dit, comme elle roule les airs, il me dit, et papa, il faisait l'amour.
Merci Léo Ferré de nous avoir consacré 2 heures ce dimanche matin. Merci, j'apprécie. Et nous apprécions d'autant plus que vous n'êtes pas un monsieur qui passait, je l'ai dit au début de l'émission, très très souvent en radio. J'espère que nous vous reverrons très souvent. Vous êtes ici chez vous, dans notre chouette club. Merci à Charlie, Olivier, Pascal, Gilles, Michel et Guy Patrick. À très bientôt, rendez-vous dimanche prochain.
Au revoir. Merci à vous tous.